Écoutez-nous sur Internet dw.com/français.
Bon, moi, je dirais que effectivement, ça commence à faire un peu beaucoup, dans la mesure où ces États sont censés travailler ensemble et censés montrer une image de crédibilité vis-à-vis non seulement des insurgés, mais aussi présenter une image assez respectable à la communauté internationale. Je rappelle que ces deux pays sont engagés au sein du G5 Sahel et qui n'arrêtent pas de vanter leurs mérites, de vanter les avancées au sein des armées respectives. Mais là, on se rend compte encore une fois que rien de tout ça ne semble être vrai. C'est un dysfonctionnement déplorable parce que le courrier adressé au ministre malien de la Défense le 18 novembre 2019 par son homologue du Burkina Faso relève une série de dysfonctionnements qui inquiètent et qui renforcent aussi les insurgés. Je pense que les autorités des deux pays et au-delà, en tout cas les autorités sahéliennes, doivent avoir à l'esprit effectivement que chaque action de leur part qui se situe dans un esprit négatif renforce davantage la détermination des insurgés.
Oui, pourtant, Boubacar Salif Traoré, les textes qui régissent la force conjointe du G5 Sahel autorisent les 5 pays membres qui la composent à user de leur droit de poursuite jusqu'à 50 km à l'intérieur d'un des pays membres.
Il faut rappeler que la question du droit de poursuite a été soulevée depuis le début des années 2010, où l'armée mauritanienne effectuait effectivement des incursions en territoire malien pour aller chasser justement les djihadistes. À l'époque, le président Amadou Toumani Touré s'était prononcé pour effectivement la mise en place de cette disposition entre les États sahéliens. Bon, aujourd'hui, effectivement, est-ce que les débats ont prospéré sur cette question? À ma connaissance, non. Et on se rend compte effectivement que toutes les réunions, notamment du G5 Sahel et plus élargie à la CEDEAO, n'évoquent pas justement cette disposition cruciale. Et c'est ce que j'ai dit. La question aujourd'hui ne devrait même pas se poser parce qu'il y a un cadre de coopération entre les deux pays au sein du G5 Sahel, mais aussi ce sont deux pays frontaliers qui ont une longue histoire de coopération et qui tiennent ensemble des réunions assez régulières pour parler justement de la gestion de la frontière. Qu'on ait l'émergence de ce problème-là, pour moi, ne s'explique pas.
Dans une correspondance datant du 15 novembre dernier, le chef d'état-major général de l'armée burkinabé a déploré que des avions étrangers survolent l'espace national sans autorisation. Qu'est-ce que vous en pensez?
Oui, c'est une bonne chose, dans la mesure où quand une armée étrangère intervient sur un territoire national, il appartient à l'État de définir le cadre d'évolution de cette armée étrangère. L'État hôte porte la responsabilité justement de cette définition. Je pense que le Burkina met cela sur la table en demandant à être informé. Je pense qu'il n'y a rien de plus normal que cela. Moi, je vais plus loin. Je pense qu'aujourd'hui, à une période où la présence étrangère est décriée, notamment dans ces pays et principalement au Mali, en pointant du doigt les insuffisances de l'aménagement et de Barkhane, même si je ne suis pas totalement d'accord avec tout ce qui est dit, je pense que tous les discours, que ce soit les discours officiels, mais au-delà les discours des uns et des autres, vont dans le sens d'une demande de plus de transparence de la part des armées étrangères. Il faut que la population locale soit informée, mais il faut aussi que les gouvernants sachent quoi dire à leur population concernant les activités de ces armées étrangères sur leur territoire.
Ces derniers temps, que ce soit au Mali, au Niger ou au Burkina Faso, on note une sorte de montée d'un sentiment anti-français. Est-ce que vous l'avez aussi remarqué?
Le problème aujourd'hui, c'est que la population, dans leur majorité, même si ce cri de colère est fortement médiatisé, mais dans leur fort intérieur, ces populations-là ont conscience que le départ de ces forces étrangères pourrait apporter un certain désastre. Moi, en 2013, j'avais fait un article sur un média où je disais, où le titre était clairement « Les Maliens ont cru à la fin de leur pays ». Aujourd'hui, cette éventualité n'a pas disparu. La population savent très bien que si les forces internationales ne sont pas présentes sur leur sol pour défendre un peu ce qui reste, le désastre peut être très grand. Mais il y a une colère qui s'exprime. Cette colère-là est accompagnée de passion parfois. Et il appartient aux gouvernements locaux, plus les forces étrangères, de fournir des informations à cette population qui ne demande que cela. Il y a beaucoup d'ombres, notamment sur la gestion de Kidal. Personne ne sait exactement ce qui s'y passe. Et les Maliens se plaignent beaucoup du fait que les insurgés traversent des villes et des villages pour aller attaquer la position de l'armée nationale sans que les drones et tous les avions de Barkhane ne puissent les identifier. Il faut que Barkhane puisse expliquer quelle est la mécanique justement de ces insurgés-là et là où les renseignements font défaut. Je pense qu'il faut aussi que les gouvernements locaux puissent définir très clairement quel est le rôle des armées nationales. Cet effort d'information et de transparence est ce qui est demandé aujourd'hui par les populations.
Parlant de Kidal, la plupart des dirigeants de la région du Sahel haussent le ton et exigent qu'on trouve une solution à cette région du nord du Mali. Les divergences s'étalent au grand jour ces derniers temps.
Je suis tout à fait d'accord. Je pense que la gestion de Kidal soulevée par les uns et les autres est un problème majeur. Il faut savoir qu'il y a des accords de paix qui ont été signés au Mali et ces accords de paix attendent d'être mis en œuvre. La mise en œuvre de ces accords de paix pourrait justement apporter la solution concernant la gestion de Kidal. Je l'ai souvent dit par le passé que pour moi, je ne retiendrai pas la solution militaire pour gérer Kidal. Il faut être capable de mettre l'accord de paix en œuvre. Si cet accord de paix n'est pas applicable, il faut apporter des modifications pour rendre cet accord applicable. C'est la seule solution pour sortir justement de cette problématique-là. Aujourd'hui, la question est évoquée par les uns et les autres et ça rejoint un peu la demande des populations parce qu'il y a eu plusieurs enquêtes qui ont montré que Kidal servait de sorte de base arrière au groupe djihadiste avec la complicité des signataires de l'accord. Donc il faut tirer tout ça au clair pour démontrer effectivement que Kidal, d'une part, est partie intégrante du territoire malien sous la responsabilité du Mali et d'autre part, montrer effectivement qu'il n'y a pas justement de connivence à ce niveau-là. Sans cet effort-là, Kidal continuera justement à poser des problèmes et il y aura une incompréhension au sommet et je pense que quelque part, tout ce qui peut apporter des incompréhensions ou des dysfonctionnements, c'est ce qui est recherché par les insurgés qui continuent justement à profiter de la situation.